Au sommaire de cette édition, le Premier ministre australien appelle à l'action contre l'intimidation dans les écoles. Non-respect de la trêve en Syrie, les protagonistes se rejettent les responsabilités. Et au football féminin, les Matildas améliorent leur record d'invincibilité. Les directeurs des établissements scolaires australiens sont priés de s'associer à l'organisation d'une journée nationale contre l'intimidation à l'école qui devrait avoir lieu au courant de ce mois de mars. Le Premier ministre ainsi que le ministre fédéral de l'Éducation ont envoyé une lettre au proviseur leur enjoignant de s'associer à cette initiative. L'appel fait suite à la mort de Dolly Everett, une adolescente du territoire du Nord. Cette adolescente s'était donnée la mort après avoir subi d'intenses intimidations. Et dans la foulée, le gouvernement fédéral vient de débloquer une enveloppe de 1,37 million de dollars sur 3 ans pour lutter contre l'intimidation à l'école. Le ministre fédéral de l'Éducation, Simon Birmingham, déclare que des ressources nécessaires seront mobilisées, mais il faut aussi associer enseignants et parents à la campagne contre l'intimidation.
As a dad of two young daughters, the stories of bullying, old-fashioned schoolyard bullying and cyberbullying horrify me and scare me, just as I know they do thousands of parents across Australia. There's no silver bullet for tackling bullying, but we absolutely need to acknowledge that discussions that can be encouraged by days like the National Day of Action Against Bullying need to happen across the entire school community.
Et selon une étude publiée par l'Armée du Salut, près de 10 millions d'Australiens pensent qu'ils ne pourront jamais accéder au rêve australien. Ben, ce rêve, c'est le rêve d'être propriétaire de sa propre maison. Selon cette étude, 9,9 millions d'Australiens partagent une lecture très pessimiste de l'économie du pays et pensent que l'accès à la propriété est tout simplement inabordable. Aussi, une sur trois personnes qui ont répondu donc dans le cadre de cette enquête et qui ont un prêt immobilier pensent qu'il s'est fait qu'ils ne pourront pas payer leur prêt mensuel en cas d'une hausse de taux d'intérêt cette année. Kristen Hartnett, une conseillère financière auprès de l'Armée du Salut, a déclaré à la SBS que le coût du logement a un effet catastrophique sur des personnes de plus en plus nombreuses à venir chercher conseil auprès de l'Armée du Salut.
People actually come in feeling probably a lot of embarrassment and shame that they're having financial problems, and that makes it difficult to reach out for help. We want to assure them that help is there through the Salvation Army. But the other thing that they would feel around that is a sense of helplessness because they think that there's limited options for them. But they're the discussions that we can have together and look at those different, you know, pathways or decisions that they can make for themselves.
Et selon l'ancien premier ministre australien Kevin Rudd, les États-Unis doivent bannir la vente d'armes automatiques et semi-automatiques. L'intervention de Kevin Rudd fait suite à la tuerie dans un lycée de Floride il y a 2 semaines et elle intervient au moment où les autorités américaines subissent des pressions intenses afin d'introduire des lois limitant le port d'armes. De nombreuses entreprises subissent aussi des pressions pour se dissocier de la très puissante NRA, la National Rifle Association. S'adressant à la chaîne américaine NBC, Kevin Rudd a déclaré que l'Australie partage la même obsession des armes à feu avec les États-Unis et il serait temps que les USA s'inspirent de la politique australienne en matière du port d'armes à feu.
There's a culture which says I may need a rifle on my farm to deal with, wild animals or stuff that's going to affect the stock or rip things to pieces. That's fine. Mm-hmm. But if you ask your average farmer mm-hmm. or your average sporting shooter who shoots clay targets and whatever, do they need a semi-automatic? Even those guys in my country, including my father and all those before him, would say, you're nuts.
Entre-temps, le président Donald Trump s'est entretenu sur des questions de sécurité dans les écoles avec un groupe de 17 personnes. Parmi les interlocuteurs du président Trump, il y avait des parlementaires, des personnalités opposées au port d'armes, ainsi que leurs adversaires qui, eux, militent pour le droit de porter des armes. Selon ces derniers, le port d'armes est d'ailleurs un droit inaliénable inscrit dans la Constitution américaine. En marge des discussions, Donald Trump avait dit que la meilleure façon d'assurer la sécurité dans les écoles consiste à fournir une protection armée, mais avec du personnel très bien formé au maniement des armes à feu.
Today we're here in a bipartisan fashion to show leadership in an effort to end this senseless violence. It can be ended, and it will be ended. First, we must harden our schools against attack. These include allowing people with a certified training, very talented people, to carry firearms. And some people are going to disagree with that, and I understand that. I fully understand that. And if you do, I want you to speak up today, and we'll listen.
Et on reste aux États-Unis, toujours dans le cadre donc des armes à feu. Eh bien, la mobilisation pour une meilleure réglementation des armes ne faiblit pas. En première ligne de cette mobilisation, les élèves du lycée de Parkland où s'est déroulé le drame il y a 2 semaines. Bien, ces lycéens sont retournés en classe hier sous haute protection policière. Compte rendu de cette journée avec Grégoire Portier pour RFI.
L'administration du lycée de Parkland a aménagé la demi-journée pour que les quelques 3000 élèves retournent d'abord dans la classe où ils étaient lors de la tuerie avec le même professeur, les mêmes camarades. L'immeuble où sont morts 17 adolescents et adultes est encore inaccessible, mais la vie doit continuer. Beaucoup disent finalement tirer de la force du débat national sur les armes à feu et la sécurité des établissements scolaires qu'ils ont réussi à imposer avec une intensité inédite. Il y a une fierté, une nouvelle raison d'être chez ces jeunes dont certains sont devenus des porte-drapeaux reconnus. Ce mercredi matin, il y a évidemment de la nervosité et ils ne sont pas tous convaincus par l'imposant déploiement policier. L'éducation ne doit pas se faire dans un climat de peur, c'est justement ce que veut le lobby des armes, regrette un élève. Pour atténuer la violence visuelle de leurs fusils en bandoulière, les forces de l'ordre sont accompagnées de chevaux et même d'un âne, animaux de réconfort. Sur le trottoir, une femme propose des bisous gratuits et à l'intérieur, des accompagnateurs psychologiques sont présents ainsi que des chiens, eux aussi chargés d'apporter un soutien et une affection bienvenue. Mais les élèves attendent aussi des actes concrets au niveau fédéral et dans un premier temps au Parlement de Floride qui est en session pour encore 10 jours.
Et selon l'ambassadeur de France à l'ONU, les rebelles syriens sont prêts à respecter le cessez-le-feu, mais ils accusent les forces gouvernementales de poursuivre leur offensive sur des zones contrôlées justement par la rébellion. La Russie avait ordonné une trêve humanitaire de 5 heures par jour pour permettre l'évacuation des civils. Mais l'aide humanitaire n'a pu être distribuée et les civils n'ont pas pu quitter les zones des combats. Les rebelles disent ne pas croire en cette trêve et les agences onusiennes d'aide humanitaire ont elles aussi critiqué cette initiative unilatérale. Selon les populations locales et les agences onusiennes, l'initiative ne garantit pas en effet la sécurité des civils qui voudraient quitter les lieux de combat. L'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut absolument une trêve pour permettre l'évacuation des civils et l'approvisionnement de l'aide humanitaire.
The Syrian regime didn't say a word about it, and moreover, is continuing its siege and large-scale military operations with dramatic consequences on the civilian population of Eastern Ghouta. All this, needless to say, in complete violation of Resolution 2401. So now it's up to the regime to do its part and to do it urgently.
Et toujours à l'ONU, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a quant à lui mis en garde la rébellion. On l'écoute.
Le peuple syrien est aujourd'hui confronté à la crise humanitaire la plus grave. La résolution 2401 du Conseil de sécurité a établi un cadre permettant à toutes les parties de s'entendre sur les conditions permettant d'alléger le sort des civils sur l'ensemble du territoire syrien. La Russie et le gouvernement syrien ont déjà annoncé la création de couloirs humanitaires dans la Ghouta orientale. Maintenant, c'est au tour des militants et à ceux qui les financent d'agir. Les militants retranchés là-bas continuent à bombarder Damas, bloquant les livraisons d'aide et l'évacuation de ceux qui souhaitent partir. Nous appelons les membres de la soi-disant coalition américaine à assurer le même accès humanitaire aux zones sous leur contrôle, y compris le camp de Rokban et tout le territoire autour d'Atanf. Il est aussi indispensable d'envoyer d'urgence une mission d'évaluation conjointe de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge à Raqqa, que la coalition a bombardé avant de la laisser tomber avec des champs de mines non nettoyés et des infrastructures entièrement détruites.
Et retour en Australie, où on signale que des milliers d'étudiantes étrangères cherchent assistance pour pouvoir avorter. Et la situation est telle que les experts se demandent si les universités australiennes font assez d'efforts pour l'éducation sexuelle des étudiants étrangers. Beaucoup d'étudiants étrangers, en effet, signalent qu'ils sont très peu informés sur la sexualité avant de venir poursuivre des études en Australie. Et selon Alison Coelho du Center for Culture Ethnicity and Health, bien les universités disposent de ressources pour aborder cette problématique. Il suffirait tout simplement de s'y prendre autrement.
It's no point providing lots of sexual education in orientation week. They'll forget and they are so overwhelmed with, you know, settling in a new country. I believe that if we have different points within that first 12 months, that we would actually see a huge reduction in unplanned pregnancy and lower the rates of sexually transmissible infections.
Et en sport maintenant, menée par sa championne Sam Kerr, l'équipe nationale de football féminin, donc les Matildas, ont encore battu leur record d'invincibilité en battant la Norvège 4-3 dans la Coupe de l'Algarve au Portugal. Bien, c'est la 8e victoire d'affilée des Matildas. Et Sam Kerr a marqué un but pour une 7e fois de suite dans un tournoi. Et il faut signaler que c'est un tournoi quand même amical qui se tient actuellement au Portugal. Écoutons le commentaire de Fox Sport concernant cette rencontre.
It looked like it was going to be 3-3, but for pretty much the final kick of the game from the corner and a bit of a scramble. The final score, Australia 4, Norway 3.
Et la météo, donc un coup d'œil météo pour ce jeudi, Perth 32 degrés, Adélaïde 28 degrés, Melbourne 21, Hobart 18, Canberra 29 degrés, Wollongong 24 degrés, Sydney 26 degrés, Newcastle 25, Brisbane 33 degrés, Cairns 30 degrés et Darwin 32 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 77 centimes de dollars US et 64 centimes d'euros. Ceci termine cette édition. À présent, un rappel des principaux titres. Le Premier ministre australien appelle à l'action contre l'intimidation dans les écoles. Et non-respect de la trêve en Syrie, les protagonistes se rejettent les responsabilités. Et au football féminin, les Matildas améliorent leur record d'invincibilité.